Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.
Merci d'écouter vos radios locales préférées, RDIWA 107.5 FM et Radio Saint-Ferréol 94.2, aussi sur internet www.rdwa.fr. Nouvel épisode Biotope. Aujourd'hui, nous allons parler gestion de la forêt. Nouveau sujet sur le bois en compagnie, tout d'abord, de Didier Boudot, responsable de l'unité territoriale Crédit pour l'ONF. Bonjour.
Bonjour.
Accompagné de Philippe Levenberg, conseiller général délégué à la filière bois.
Bonjour.
Pour notre département, bonjour. Et l'occasion de faire une nouvelle fois un peu un point sur cette forêt dont on parle, forêt du Diwa et de la Drôme qui est très très dense, et de faire un petit peu le parallèle entre ce qui est public, donc l'ONF, et ce qui ne l'est pas. Tu vas représenter, Philippe, un petit peu ses propriétés privées. Et puis, parler donc à la fois de la gestion, comment est-ce qu'on travaille sur le terrain, mais aussi quelles sont les perspectives d'avenir, les orientations que vous prenez. Peut-être commencer avec vous, Didier Boudot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment fonctionne l'ONF, puisqu'on n'a encore jamais eu l'occasion d'accueillir du personnel de l'ONF, d'État d'ailleurs.
L'ONF gère les forêts publiques, c'est-à-dire les forêts appartenant à l'État, qu'on appelle les forêts domaniales, et également les forêts des collectivités, donc forêts départementales, exemple la forêt de Soux, que les gens quand même de la Drôme connaissent très bien, mais aussi toutes les forêts des communes, forêts communales sur le Diwa, donc essentiellement le Haut-Diwa, à quelques grandes forêts communales, par exemple Luce-la-Croix-Haute. Ça représente sur le Diwa une surface conséquente d'environ 40 000 hectares, et pour gérer ces forêts, on a deux unités territoriales qui se répartissent la vallée de la Drôme, donc l'unité de Dissaillant qui gère toute la partie basse de la vallée, et l'unité du Haut-Diwa qui va jusque Luce et le col de Cabre.
Alors concrètement, comment ça se fait cette gestion? C'est-à-dire qu'il y a encore bien évidemment du personnel sur le terrain qui se promène, qui arpente?
Voilà, on a sur le Diwa environ une quarantaine de personnes qui travaillent sur la forêt, donc bien entendu du personnel de soutien, personnel administratif, une quinzaine d'ouvriers forestiers qui vont faire tous les travaux d'entretien des forêts, et puis du personnel technique, donc des techniciens forestiers qui vont gérer cette forêt, que ce soit le marquage des coupes de bois, la surveillance de la chasse, l'accueil du public. La forêt a aujourd'hui un rôle multifonctionnel très important qu'on mettait moins en évidence il y a quelques années, où on ne voyait par exemple dans le Diwa que le volet protection des sols. Aujourd'hui, on se rend compte que
l'érosion,
c'est...
hein.
Voilà, ouais. Érosion. Mmh. Pour nous, c'est l'érosion, sachant donc qu'il y a un peu plus d'un siècle, nos versants étaient fortement déboisés et à chaque orage, on avait des phénomènes de crues, glissements de terrain qui mettaient en danger, bien sûr, les biens situés dans la vallée. Donc on avait ce rôle presque exclusivement de protection des sols. Aujourd'hui, on se rend compte que la forêt, même la forêt d'Ivoise, produit quand même du bois. Et elle a aussi un rôle important d'accueil du public de plus en plus et de protection de la biodiversité d'une manière générale.
Alors justement, on pourrait évoquer rapidement cette notion accueil du public là.
L'ONF a mis en place un produit entre guillemets d'accueil du public qui s'appelle Retrouvance. Il s'agit de circuits itinérants au travers du Diwa. On accueille donc des groupes d'une douzaine de personnes qui pendant une semaine vont randonner de manière itinérante sur trois sites qui ont été réaménagés. Ces randonnées sont accompagnées par des accompagnateurs moyenne montagne qui tout au long de la semaine vont faire un petit peu découvrir le Diwa à ce public assez large puisqu'on a des gens qui viennent un petit peu de toute l'Europe. Donc ils vont découvrir non seulement la forêt mais tout le Diwa, que ce soit l'aspect bien sûr viticole, agricole, l'élevage. Donc c'est une formule qui est très demandée, quelque chose qui n'existait pas dans le DIWA, mais que l'ONF avait déjà mis en place dans d'autres régions. Et c'est pour nous important de présenter notre région, mais également bien sûr la forêt. Pendant la durée de ce séjour, les randonneurs ont aussi une demi-journée de rencontres et d'entretien avec le forestier local.
Voilà, il y a quand même une dimension d'échange avec la profession ONF.
Voilà, tout à fait. On va leur présenter une exploitation forestière, tout ce qui concerne la biodiversité et puis le métier de forestier.
Enfin, je voudrais qu'on aborde, il y a quelques temps, les différentes municipalités du secteur recevaient un courrier comme quoi l'ONF était une certaine forme de danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer là ?
Tout le personnel de terrain est constitué de fonctionnaires et malheureusement, l'ONF est soumis à la politique nationale de réduction des effectifs de fonctionnaires, ce qui fait qu'on a une diminution du personnel de terrain qui rend nettement plus difficile notre gestion. Le personnel s'inquiète un petit peu de cette réduction d'effectifs. Là-dessus viennent se greffer les problèmes de la crise économique, puisqu'on sait que lorsque le bâtiment est en difficulté, la forêt, donc le bois, est en difficulté aussi, puisque une grosse partie quand même du bois va sur le bâtiment. Donc on traverse une période difficile et qui, bien sûr, est sujette à inquiétude chez les personnels.
Alors, ce soutien des municipalités, par exemple, permettrait d'avoir un poids au niveau national et de dire, bon, vous ne pouvez pas nous supprimer ces postes ?
On attend un soutien des municipalités pour essayer au minimum de réduire les effectifs, mais également de les répartir au mieux et d'essayer de maintenir ce tissu local qu'on avait donc auparavant, qu'on a encore bien sûr, mais voilà, essayer de ce qu'on souhaite, c'est garder du personnel de terrain. Dans ce domaine, je pense que les municipalités, les communes forestières peuvent largement nous aider.
Philippe Levenberg.
Oui, sur cette question, je vais parler aussi en tant que membre du conseil d'administration de l'association des communes forestières, qui a signé un contrat d'objectif avec l'ONF et l'État, où les communes forestières ont accepté de donner 2 euros par hectare à l'ONF pour soutenir l'ONF dans la gestion des forêts communales, puisque la mission de l'ONF de gestion des forêts communales est largement déficitaire. Alors ces 2 euros en plus par hectare ne comblent pas le déficit, mais permettent d'équilibrer un peu plus les comptes de l'ONF. Le problème est que la répartition des postes de travail c'est fait plus en fonction de la productivité des forêts. Donc plus la forêt est productive, plus on met de postes de travail. Et par exemple, dans les Landes, on a beaucoup de gens qui travaillent. Et dans le DIWA, où on a des forêts qui sont plus difficiles d'accès, plus compliquées, avec des pentes importantes et des accès peu nombreux, eh bien, on a moins d'agents. Alors que ce que demanderaient les communes forestières, c'est d'avoir plus d'agents là où il y a des difficultés d'exploitation.
Voilà, juste pour préciser, donc, l'ONF en difficulté économique, l'intégralité des recettes de la forêt domaniale sont reversées à l'Office national des forêts. Donc les recettes, c'est les ventes de bois, bien sûr, et pour notre région, notre département également, des recettes importantes issues de la location des droits de chasse. Les recettes de la forêt communale sont reversées, par contre, aux propriétaires, donc aux communes. Et ce qui fait que l'ONF, pour cette gestion des forêts communales, a très peu de recettes. C'est en fait 10% des recettes de la forêt, ce qui ne suffit pas, bien sûr, à assurer la gestion des forêts communales. D'où la mise en place de cette taxe de 2 euros à l'hectare pour renforcer un petit peu les finances de l'ONF, sachant que l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, et qu'à ce titre, l'ONF se doit d'avoir un budget équilibré.
C'était presque un service qui était rendu avant, quoi.
C'était plus un service qui était rendu, même si l'État, sous forme d'un versement compensateur, amenait déjà une certaine somme d'argent à même d'aider à la gestion de la forêt communale.
Philippe, maintenant, alors concernant cette filière bois et la manière dont le département l'a réfléchi.
Alors la filière bois, il faut entendre filière un processus où on va de la ressource, donc la forêt, qu'elle soit privée ou publique, jusqu'au sillage, séchage, et la transformation du bois, soit en bois énergie, ce qui est, enfin, on va appeler ça les résidus de la forêt, ou en bois d'œuvre, bois de construction. Aujourd'hui, en France, et dans la Drôme, la situation est à peu près la même, on a un déficit de la balance commerciale énorme sur le bois. Je crois que c'est plus de 6 milliards d'euros de déficit. C'est le deuxième déficit après le pétrole. Parce qu'on exploite du bois en France, mais on ne le transforme pas et on n'a pas de chaîne de continuité dans la transformation du bois. Donc l'objectif de la filière dans la Drôme et en Rhône-Alpes, c'est de favoriser une meilleure gestion de la forêt en vue d'une transformation du bois et puis de mettre en lien tous les acteurs. Tout ce qui est scierie, exploitation forestière sera la première transformation. Et la deuxième transformation sont les charpentiers, menuisiers, tout ce qui transforme le bois, qui fait une plus-value sur le bois par le travail qui est apporté. Donc la difficulté qu'on a essentiellement, c'est que les forêts, alors je ne parle pas des forêts publiques, mais on a sur la forêt privée 40 000 propriétaires en Drôme, dont la plupart ne gèrent pas leur forêt. Je crois qu'à 95%, elle n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan simple de gestion, pas de plan de gestion durable sur ces parcelles forestières. Elles sont toutes petites. La moyenne est à un peu plus de 4 hectares par propriétaire, avec des parcelles de 0,6 hectares qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc un énorme morcellement, ce qui fait qu'on a des grandes difficultés quand les propriétaires ne sont pas regroupés pour gérer cette forêt. Et du coup, on a une forêt qui pousse et qui peut pousser de traviole ou qui pousse n'importe comment, qui tombe... et qui ne permet pas d'avoir des arbres exploitables, notamment pour le bois construction. C'est là qu'il y a le plus de travail derrière, de plus-value, voilà, pour revaloriser le produit.
Etc. Ouais.
Voilà, c'est aussi un problème au niveau de la prise en compte des autres enjeux, qui sont la sauvegarde de la biodiversité, puisqu'une forêt non gérée ne protège pas forcément la biodiversité, au niveau du tourisme, du loisir, ou de la protection des sols, des terrains, comme le fait l'ONF. Puisque là, on a des forêts qui vont laisser partir des cailloux, des arbres, enfin voilà.
Pour revenir un petit peu sur l'ONF, est-ce que quand même vous avez vous regardez quand même un petit peu cette forêt, même si elle n'est pas publique?
Oui, tout à fait. On a certaines zones où la forêt publique et la forêt privée sont très imbriquées. Il vaudrait mieux avoir une gestion de massif pour améliorer la desserte forestière. Donc, quand on crée une route, la route va desservir la forêt publique, la forêt privée. Donc, si on veut faire des coupes de bois, c'est mieux de les faire sur un versant complet, quel que soit le propriétaire. Donc, on essaie de se rapprocher des gestionnaires de la forêt privée de façon à avoir plus une logique de massif qu'une logique de propriétaire. Quelques éléments, par exemple, sur le Diois, en gros, c'est 50% de forêt publique, 50% de forêt privée en surface. Aujourd'hui, en exploitation, c'est la forêt publique, on exploite à peu près 50 000 m3 par an sur le Diois. La forêt privée, c'est 20 000 m3 seulement, donc pour une surface à peu près identique. Donc, on peut dire que la forêt privée est aujourd'hui sous-exploitée.
Alors, au-delà des moyens humains qu'il faudrait maintenir ou développer sur nos secteurs, par exemple, est-ce qu'il y a des réflexions politiques pour que cette gestion soit presque une sorte d'obligation? À un moment donné, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'une forêt qu'il faut qu'on la laisse traîner, non?
Il y a des réflexions, mais ce qui est très compliqué, c'est que la propriété privée est sacrée en France.
Mais enfin, donc, on pourrait taxer pour que des gens l'entretiennent.
C'est une possibilité. Ça pourrait être une décision qui soit prise au niveau national. Donc il y a des propositions qui vont dans ce sens-là. Les gens, en fait, qui sont propriétaires forestiers de toutes petites parcelles devraient payer un impôt, mais la somme étant trop petite, cet impôt est irrecouvrable. Le choix qui a été fait alors, du département et avec son partenaire privilégié sur ce sujet-là, c'est le CRPF, donc Centre Régional de la Propriété Forestière, c'est d'inciter les propriétaires privés à se regrouper volontairement, pas sur du regroupement foncier comme ça a pu se faire dans l'agriculture. Donc se regrouper volontairement pour mettre en place ensemble des plans de gestion durable, plans de gestion simplifiés. Enfin, il existe plusieurs dispositifs.
Soyons concrets, ces regroupements, c'est quoi?
Il y a plusieurs statuts possibles, mais le statut qu'on privilégie, nous, c'est l'ASLGF, donc Association Syndicale Libre de Gestion Forestière, où c'est une association où les gens vont adhérer à l'association, qu'ils aient 4 hectares, 0,6 hectares ou 25 hectares. Ensuite, ils se mettent tout autour de la table avec un expert forestier du CRPF, donc qui connaît bien les problématiques de la forêt. Et il va entendre tous ces propriétaires pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur forêt. Est-ce qu'ils veulent faire uniquement protéger la biodiversité? Est-ce qu'ils veulent exploiter du bois? Et à partir des différents points de vue des propriétaires forestiers, ils vont essayer de mettre en place différents plans de gestion de la forêt et qui seront validés collectivement avec l'aide de l'expert forestier. Donc à partir de là, on sait qu'on a une forêt où on n'a pas le risque, par exemple, qu'il y ait une entreprise privée qui débarque, qui mette de l'argent liquide sur la table et qui dise « je vais vous raser vos 5 hectares, je vous donne 2000 euros » avec des gens
qui... Ce qu'on
qui...
voit souvent. Hein.
Ce qui peut arriver, ça arrive de moins en moins, mais ça peut arriver. Il y a une forte pression notamment sur le bois énergie. Donc l'idée, c'est que collectivement, les gens sont plus forts, ils ont un plan de gestion. Ils sont obligés de le respecter, c'est des plans de gestion sur 20 ans, 30 ans, sans que les gens ne soient plus propriétaires de leur parcelle. L'autre proposition qu'on fait, qui est beaucoup plus compliquée, c'est de favoriser les échanges de parcelles pour atteindre des niveaux de taille de parcelles où il puisse y avoir une gestion, puisqu'au-delà d'une certaine
donc
taille...
Donc un redécoupage cadastral un petit peu. Quoi,
un redécoupage cadastral, voilà. Mmh. Donc vous avez un hectare de forêt par-ci, un hectare par-là. On essaye de trouver les propriétaires qui sont autour, on les contacte, on leur demande s'ils veulent bien acheter ou échanger ce bout de forêt, de façon à ce que de parcelles de 1 hectare, on obtienne des parcelles de 5, 6 hectares, 10 hectares ou plus. Et à ce moment-là, il y a des plans de gestion qui sont obligatoires sur ces parcelles. Donc ça garantit une gestion à long terme surtout de la forêt.
À partir de quelle limite le plan de gestion est obligatoire?
Alors je crois que c'est 25 hectares, mais il y a des plans de gestion possible à partir de 10 hectares, mais en dessous, c'est un peu l'anarchie. Enfin, oui. Les gens peuvent faire un peu n'importe quoi avec leur forêt, avec des demandes d'autorisation quand même pour faire des coupes franches ou des travaux forestiers. Mais on a souvent beaucoup de propriétaires qui, d'une part, ignorent souvent qu'ils sont propriétaires et puis qui s'intéressent très très peu à leur forêt parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne sont pas eux-mêmes gestionnaires forestiers, quoi. Et puis, si on regarde l'aspect économique, quand on a un hectare, c'est dur d'envisager une exploitation ou une gestion de sa forêt, puisque ça coûte quand même très très cher et c'est très peu rentable.
Je pense que si elle avait une grande valeur économique, ça serait différent.
Oui. Et il saurait où elle est.
Voilà. Donc le bois n'a pas une grande valeur. C'est sûr que le propriétaire privé, s'il n'a pas d'aide pour, par exemple, créer une route d'accès, ne va pas investir dans cette forêt.
Et puis, quand on peut exploiter et sortir du bois, bon, on peut éventuellement équilibrer. Mais avant de pouvoir sortir du bois, d'avoir une forêt qui soit belle avec quelque chose d'exploitable, il faut y faire des travaux d'entretien, des éclaircies, enfin, tout un tas de travail qui, lui, n'est pas rentable, destiné à ce que la forêt, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, soit une belle forêt où on puisse sortir du bois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire « tiens, je vais dépenser une somme d'argent aujourd'hui pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants ».
Justement, comment vous incitez les gens à faire ces deux propositions-là qu'on a eues?
Je ne sais pas quand est-ce que sortira l'émission, mais on organise deux réunions où on invite sur des secteurs, avec le CRPF, l'ensemble des propriétaires forestiers privés. On invite aussi l'ONF, voisine de ces parcelles. Et on leur présente ces propositions, les enjeux qu'il y a autour de la forêt aujourd'hui, les enjeux de protection, les enjeux d'exploitation, les enjeux économiques, touristiques, enfin tous les enjeux qu'il y a sur la forêt. Et on leur propose, alors sur les échanges forestiers, le département paye 80% des frais de notaire et 80% des frais de géomètre pour favoriser ces échanges. Le CRPF, lui, s'occupe de contacter les propriétaires, d'aller visiter les forêts avec les propriétaires pour savoir si ça vaut le coup de travailler dessus, si ça vaut pas le coup. Et puis l'ONF est là, puisque bien souvent, quand il y a des enclaves privées dans la forêt publique, on essaye de pousser les gens à céder leurs parcelles à l'ONF ou à faire des échanges pour avoir des limites un peu plus rationnelles.
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il est important d'avoir une gestion au niveau d'un massif complet. En général, nos forêts domaniales sont de surface conséquente. La moyenne est de 1000 à 2000 hectares, à peu près, une surface de forêt domaniale. Les forêts communales peuvent être de très petites surfaces, quasiment de la taille des forêts privées, donc quelques hectares. La forêt communale, on peut la comparer à une forêt privée et il est logique qu'elle entre dans ce système de mutualisation, des dessertes, d'échanges avec les forêts privées.
Par exemple, on a fait une opération l'an passé à Luc-en-Diwa, où on a invité l'ensemble des propriétaires du canton. Alors, il y avait déjà eu une opération de regroupement foncier précédemment, mais malgré tout, on a eu énormément de monde, des gens qui ont fait 500 km.
C'est-à-dire qu'avant, vous les avez contactés en disant « bon, vous êtes propriétaire d'une forêt, venez... »
Voilà. Alors, le CRPF se base sur les données cadastrales, envoie un courrier à tous les propriétaires en leur disant « vous êtes propriétaire de telle parcelle à tel endroit ». Donc nous vous invitons à une réunion pour discuter de l'avenir de votre forêt et du regroupement foncier éventuellement. Donc là, on a eu des gens qui venaient très très loin, des gens du Diwa aussi, des gens parfois qui se font des idées sur le bout de forêt qu'ils ont. Il y avait beaucoup de propriétaires, notamment sur le pic de Luc. Donc c'est des chênes qui sont tout tordus, des chênes pubescents, on appelle ça, qui n'ont donc pas beaucoup de valeur, qui sont dans des coins absolument inaccessibles, sur du rocher, tout ça, mais qui s'imaginaient être propriétaires d'un capital peut-être valant une fortune qui leur permettrait d'acheter une maison, une voiture, ou voyager, ou je sais quoi. Et bien, ça les remet un peu dans la réalité du terrain. Les opérations qu'on suivit derrière, c'est qu'il a été proposé à la commune, qui est propriétaire du CLAPS, du site du CLAPS, en cours avec un gros projet dessus, de se rendre propriétaire de ces parcelles, pas rentables, pas très intéressantes sur le plan forestier, pour éventuellement un futur projet de chemin botanique, de promenade.
Et comme ça, les gens ont quand même une petite somme qui vient finalement.
Donc c'est une somme symbolique, parce que si on calcule la valeur réelle de ces forêts, on pourrait dire que ça vaut 100 ou 200 euros, donc monte à 500 euros symboliquement, histoire de dire qu'il y a quelque chose, mais... L'idée, c'est surtout qu'on ne laisse pas des parcelles à l'abandon pendant des années, avec l'idée que ça vaut une fortune alors que ça ne vaut pas grand-chose.
Donc on parle bien de plans de gestion là, qui sont vraiment du très 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 long terme. Ce que vous êtes en train de faire là, tu le disais tout à l'heure, c'est efficace dans 30 ans, 40 ans.
Quand on parle de forêt, on parle toujours à très long terme. Ce n'est pas le cas ici, mais lorsqu'on produit du chêne de qualité, c'est sur plusieurs siècles. C'est plus à l'échelle, je dirais, humaine, la gestion d'une forêt. Un plan de gestion, il est fait actuellement sur 20 ans. Et 20 ans, ça paraît très court pour un forestier, puisque c'est à peu près un cinquième de la durée de vie d'un arbre dans notre région. Un pin, on compte à peu près un siècle pour qu'il soit à l'âge adulte. Donc,
L'employé, ça lui fait 2 ou 3 plans de gestion dans sa carrière.
C'est ça. Donc, quand on plante un arbre, on sait qu'on s'engage sur un siècle. Une céréale, c'est sur une année. Donc, c'est une échelle complètement différente.
Après, sur les plans de gestion, il y a aussi la valorisation de la forêt. Ne va pas se faire à travers une exploitation de la forêt.
Le projet touristique, peut-être.
Qu'on va pouvoir y faire ou permettre aux gens d'aller se promener, de découvrir... les différentes essences qui peuvent y pousser, découvrir des animaux, avoir un projet pédagogique derrière. Donc il n'y aura pas de retombée directement pour le propriétaire, mais il peut y avoir une retombée pour le territoire ou pour le paysage, ne serait-ce que pour avoir un joli paysage ou avoir un endroit qui va protéger un peu des oiseaux ou des animaux ou des choses comme ça. Donc les retombées économiques sont quand même difficiles à retrouver sur la forêt.
Également, c'est la protection de l'eau. De l'eau potable. Donc, on a dans certaines régions où des sources d'eau minérale, la forêt, le rôle de la forêt est là quasiment uniquement de protéger cette ressource en eau. On a une gestion spécifique sur les zones de captage.
Bon, on a parlé de développement durable pendant toute cette émission, qui arrive d'ailleurs à son terme. Juste un petit mot sur ce formidable outil que vous avez mis en place qui s'appelle le Martelloscope, donc outil de gestion multifonction à la fois. Écologique, économique, d'exploitation du bois, etc.
Alors déjà son nom, un petit peu particulier, il vient du mot martelage, qui est en fait l'opération qui consiste à désigner les arbres à couper. Le martelloscope est un endroit où les forestiers vont s'exercer de façon à marquer au mieux les arbres à couper. Donc c'est un site école pour les forestiers, mais également... un endroit où on accueille les maires de communes forestières, les propriétaires privés aussi, où on va leur expliquer un petit peu la façon dont on désigne les arbres, puisqu'on ne marque pas un arbre au hasard. Hein. On le désigne en fonction du relief, en fonction des enjeux, des risques naturels. C'est une zone école où on peut, au travers d'une désignation fictive des arbres à enlever, en l'intégrant dans un logiciel, voir un petit peu ce que sera la forêt de demain à partir de l'opération que l'on réalise aujourd'hui.
Alors, il y en a deux dans la Drôme. Il y a un martelloscope à Valdrome et l'autre à Saint-Agnan. Ils sont vraiment précurseurs des futurs modes de gestion. On utilise les outils les plus modernes, informatiques, pour gérer cette forêt avec des simulations qui sont très intéressantes et qui permettent de voir différents modes de gestion et ses conséquences. Alors ça peut être soit sur la nature, soit sur l'aspect économique aussi de la coupe. Et puis pour la protection, notamment des routes ou des habitations. Le service des routes du département travaille en lien étroit avec l'ONF sur ce projet, puisqu'on n'a jamais vraiment valorisé le rôle de la forêt sur les routes. Mais si on coupait toutes les forêts de la Drôme, le service des routes passerait des heures et des heures en camion à enlever tous les rochers qui tombent sur la route. Donc ça nous coûterait une fortune. Donc il faut bien regarder toutes les coupes qui se font au-dessus des routes ou des habitations. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui apparaissent et des modes de gestion nouveaux, je pense très très pointus. Mais avec l'évolution rapide des technologies, je pense qu'on ira vers ce mode de gestion de plus en plus large.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Cédric Fermont, bonjour, vous êtes ingénieur ONF.
Bonjour.
Vous êtes chef d'un projet que vous allez nous présenter.
Enfin, j'étais chef pour le compte de l'ONF d'un projet européen, projet Interreg qui s'appelle Manfred, qui regroupe 15 partenaires répartis sur l'ensemble de l'arc alpin, depuis la Slovénie en passant par l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la France. Pour le volet français, nous étions deux partenaires, il y avait l'ONF, donc l'Office National des Forêts, et le CEMAGREF également, qui s'occupait de la partie plus scientifique du projet.
Ce projet Manfred, c'est quoi concrètement?
Plus spécifiquement dans le Diwa, c'était un projet qui visait à adapter la gestion des forêts à la problématique de protection contre les chutes de blocs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts domaniales du Diwa sont pour la plupart issues de plantations qui ont grosso modo un siècle. La politique RTM de restauration des terrains en montagne, c'était une politique d'État qui visait à boiser les montagnes méditerranéennes dans un but de lutte contre l'érosion des sols et les inondations dans les vallées.
Et ça, le plus rapidement possible avec des essences pas très locales, quoi.
Voilà, c'est des essences autrichiennes, elles sont pas si loin, mais c'est une politique qui a duré une trentaine d'années à peu près. Les premières lois de la RTM datent de 1860 et ça s'est étendu jusqu'à peu près à la Première Guerre mondiale, là, en 1914. Et dans le Diwa, les populations locales ont été mises à contribution. L'État a acquis des terrains, traduit par la plantation d'à peu près 30 000 hectares de pins, adaptés à la colonisation de ces milieux qui étaient non forestiers au départ. Hein, c'était des pâturages. Donc ces forêts ont grandi, ont été exploitées. Aujourd'hui, elles sont mûres. Elles remplissent des fonctions nouvelles. Alors, elles produisent du bois. Ce n'était pas l'objectif initial. L'objectif, c'était la protection contre les inondations. Elles ont contribué à l'amélioration de la biodiversité. Elles permettent d'accueillir des populations, des randonneurs, la chasse, du gibier. Contribuent aussi au paysage. Parmi toutes ces fonctions, il y en a une qui est apparue. C'est une fonction de protection des infrastructures, hein, des routes, des bâtiments principalement, la voie ferrée, là, contre les chutes de blocs en provenance des falaises qui sont en amont, quoi. Elles ont un effet de rétention des blocs ou de limitation de leur propagation, fonction qui est extrêmement intéressante, qui n'existait pas.
Parce que vous n'en aviez pas pris conscience?
Tout simplement parce que les forêts étaient pas mûres, trop jeunes.
Oui, donc elles ne retenaient pas ces blocs.
Donc elles retenaient pas suffisamment. Aujourd'hui, elles sont mûres et surtout, on les récolte. Toute la problématique est de savoir comment prélever du bois, renouveler ces forêts. Parce que si on les laisse évoluer seules, une seule essence, elle risque de dépérir assez brutalement, oui, naturellement. Donc, il faut les irrégulariser, c'est les principes de gestion.
Faire tourner un peu les...
Faire revenir d'autres essences un peu diversifiées, voilà, faire effectivement mettre en œuvre des systèmes de rotation et d'irrégularisation au niveau des âges, en maintenant ce rôle de protection et en le faisant durer dans le temps.
D'où la création du martelloscope.
D'où la création d'un martelloscope. Dans le Diwa, c'est le martelloscope qui a été mis en place sur la commune de Lépré, à côté de Valdrome, en forêt domaniale du Val-de-Drôme. C'est un site qui fait à peu près un hectare, qui est situé en amont de la route départementale, sujet à d'importantes chutes de blocs en provenance des falaises en amont. Le principe, ça a été de diagnostiquer un peu l'état du peuplement, quelle taille de bloc, quel type de bloc, quelle hauteur de rebond, quel type de sol, etc. Pour tout vous dire, sur un hectare, il y a 1000 arbres, il y a 700 arbres impactés par les blocs. C'est actif, quoi. Suite à ça, donc, le CEMAGREF s'est attaché à mettre en œuvre une modélisation de cette fonction de rétention des blocs, en développant un petit modèle qui est disponible sur Internet, qui est utilisable par les forestiers. Très simplement, en fonction des caractéristiques de la forêt, forme du versant, le nombre d'arbres, les essences, leur diamètre, de façon très simple de nous dire si cette fonction de protection est efficace ou pas.
C'est-à-dire qu'on peut simuler une chute de blocs
Exactement. On peut simuler de la trajectographie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des directions préférentielles de chute de blocs, une intensité de rétention et des lignes de propagation, c'est-à-dire en gros jusqu'où est-ce que les blocs vont aller. Et tout ça, ça nous permet aussi de piloter une gestion. C'est-à-dire si on est dans un objectif d'irrégulariser ces peuplements, donc il faut prélever des arbres, il faut faire des interventions. Comment les faire sans déstabiliser ou en déstabilisant le moins possible cette fonction de protection et en maintenant de fait ce service un peu d'intérêt général qui est un rôle de protection civile. Voilà. Le martelloscope, l'utilisation qui en a été faite après cette phase d'études et de modélisation, ça a été de mettre en place des sessions de formation des forestiers. Donc il y a une soixantaine de forestiers qui ont pratiqué sur le site l'an passé. Il y aura de nouvelles sessions cette année qui seront mises en œuvre. Et puis, pour aller jusqu'au bout de l'intérêt démonstratif de ce site, on a mis en place des travaux, des opérations sylvicoles spécifiques. Et donc notamment des coupes particulières qu'on appelle des coupes par trouées en quinconce, de façon à ne pas créer des zones préférentielles sans arbres. Mais les coupes ont été faites avec des troncs qui ont été abattus à 1,20 m de haut, de façon à maintenir des troncs en place pendant une quinzaine d'années et continuer à avoir cet effet de rétention des blocs. On a également abattu des arbres en travers, donc ça peut, au niveau des populations, ils peuvent se dire, l'ONF font des coupes, ils laissent des arbres dans les parcelles. C'est quoi
c'est étrange.
Voilà, mais on abat des arbres en travers, en gros à 45 degrés, en amont des trouées, de façon à dévier les blocs dans les zones boisées ou vers des ravines, parfois. Voilà. On a mis également en place des systèmes de filets par pierre qui sont directement accrochés sur les arbres. Donc en gros, c'est des filets de grillage qui sont tendus sur des arbres supports et qui permettent, alors là on en a mis en route dans deux ravines, là ça permet d'arrêter des blocs jusqu'à à peu près 300 litres. Quoi.
Êtes-vous sorti de la période d'expérimentation pour faire un premier bilan sur cette action?
Oui, parce que le projet est bouclé.
Avec des points négatifs peut-être?
Oui, les points négatifs, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes.
Ouais.
C'est-à-dire, je vous ai parlé de taille de bloc limite. Pour parler technique, en kilojoules, c'est inférieur à 100 kilojoules d'énergie. Donc, c'est des blocs qui font 500 à 600 kilos maxi. Au-delà, un bloc d'un mètre cube, il va casser les arbres et il va traverser les filets. Donc ça ne répond pas à tous les problèmes, mais ça permet quand même d'écréter une partie de la problématique. Voilà.
Sur la partie formation, peut-être aussi.
Sur la partie formation, ça veut dire quoi? Il va falloir également que les forestiers s'approprient cette démarche qui est un petit peu innovante pour la mettre en œuvre. Et puis, il va aussi falloir trouver des fonds, parce que forcément, ça, dès lors qu'on laisse des arbres dans les parcelles, dès lors qu'on met en œuvre des techniques un peu particulières, il faut trouver des fonds aussi pour financer ces interventions-là. Voilà, donc là, on travaille notamment avec le service des routes du département de la Drôme qui est fortement intéressé par ces techniques un petit peu nouvelles et on a des projets de collaboration encore.
C'est-à-dire que l'ONF ne serait plus le seul prestataire financier de ce type d'entretien du coup.
Voilà, l'idée c'est de travailler en complémentarité avec l'État qui a des mesures financières qui permettent de financer une partie de ces surcoûts et de travailler également avec les collectivités qui sont les premiers bénéficiaires in fine de ces techniques-là, dans le sens où les bénéficiaires, ça va être les propriétaires d'infrastructures, le département pour les routes départementales, ça va être les communes pour les routes communales, ça peut être RFF pour la voie ferrée, ça peut être des particuliers pour un bâtiment à protéger de façon spécifique. Voilà. Donc il y aura une maîtrise d'ouvrage à trouver, il y a des financements spécifiques État qui permettent de couvrir une partie des surcoûts. On commence à maîtriser assez finement ces techniques-là. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui...
L'avenir est de se rassembler, quoi.
Voilà, il n'y a qu'à travailler ensemble et puis avancer sur ce domaine un petit peu nouveau. Ouais. Ouais.
Cédric Fermont, merci pour cette présentation du Martelloscope.
Je vous en prie.
À bientôt.
Au revoir.
Capsule.
Je vous remercie Didier Boudot, le responsable d'unité territoriale pour l'ONF entre Cré et Die. Merci à vous pour votre présence. Merci Philippe également, Philippe Levenberg, délégué à la filière bois pour le conseil général et conseiller général du canton de Die.
Et bien merci à Radio Diwa de nous accueillir pour parler de la forêt.
Et à bientôt dans Biotope.
À bientôt, merci.
Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.